Amen. Bonjour à chacun, j'espère que vous allez bien. La pluie a fait son retour, c'est un moment qu'il n'avait pas plu. Et je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu, là, sans plus tarder. Et comme l'a dit Thomas, nous aurons un temps de louange après. Vous allez comprendre pourquoi, puisque mon message de ce matin va nous encourager, en tout cas, dans cette démarche. Je vais commencer par une petite histoire. À la fin de la guerre civile au Vietnam, donc qui a eu lieu un peu après la guerre, il y a eu une guerre civile au Vietnam, la guerre du Vietnam, où le peuple vietnamien s'est déchiré entre le nord et le sud, et le pays était à feu et à sang. Et dans les montagnes isolées, à la fin de la guerre est terminée, il y a un jeune homme qui vivait caché dans les montagnes, terrifié. Il avait peur pour sa vie. Parce que ce jeune homme, c'était le fils d'un général de camp et du camp qui venait de perdre la guerre. Et toute sa vie, il a grandi avec cette menace que son père, que sa famille, que ses amis lui ont dit. Si à la fin de la guerre nous perdons, les nouveaux dirigeants te trouveront, ils t'exécuteront pour les crimes de ton père. La vengeance après la guerre. Bon, la guerre, c'est mal, hein, on le sait tous, et on sait très bien qu'après la guerre, il peut y avoir des règlements de compte. Et ce jeune homme, du coup, vivait dans la peur. Pendant sa fuite, il a été blessé d'une balle dans la hanche et une blessure mal soignée qui l'a laissé infirme, boiteux. Il ne peut plus marcher et il se traînait, du coup, à travers la jungle et la montagne. Et sa vie se résumait à une vie de misère dans une cabane isolée qu'il changeait régulièrement. Il se nourrissait de racines pour survivre, et avec une certitude, il était persuadé d'être le dernier nom sur la liste noire du nouveau président, le dernier nom à abattre. Et puis un matin, dans sa cabane, il entend un bruit qui déchire le silence, c'est le bruit d'un hélicoptère qui arrive, et il voit des soldats qui débarquent en uniforme. Et là, ce jeune homme, du coup, essaye de se traîner au plus loin de l'hélicoptère, mais il ne peut pas courir. Il ferme les yeux et il attend. Il sait qu'il pense que c'est la fin et que ces hommes sont venus pour l'exécuter dans la jungle, qu'on vient pour le tuer. L'officier entre dans la cabane, il avance et il s'agenouille à la hauteur de cet homme, mais au lieu de sortir une arme, il lui sort une lettre. Et dans cette lettre, scellée du nouveau président, il l'ouvre et il commence à lire à haute voix: Je ne cherche pas ta vie. Je cherche le fils de mon ancien ami avant la guerre. J'ai préparé une chambre pour toi dans mon propre palais. La voiture t'attend, et ce jeune homme pensait quelque part qu'on venait pour son exécution, mais on venait pour quelque part la réconciliation. L'ancien président, du coup, ne voulait pas ici perpétrer encore le mal, mais quelque part trouver une réconciliation, une adoption. Cette histoire, c'est exactement le choc qu'a vécu un personnage de la Bible, dont on ne parle pas beaucoup, peut-être que vous ne le connaissez pas d'ailleurs, Méphibosheth. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Méphibosheth? On est dans l'Ancien Testament et on va découvrir un peu son histoire ce matin. Il se cachait d'un roi, le roi David, qu'il croyait être son bourreau. Et alors que le roi David le cherchait pour en faire son fils, lui pensait le contraire. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous, nous vivons comme des fugitifs. On peut croire que Dieu est bon, mais nous vivons quelque part à l'opposé de ce Dieu. Nous nous cachons de Dieu parce que nous avons peur de ce qu'il pense de nous, mais nous allons découvrir que la bonté de Dieu n'est pas une menace, c'est une invitation, et c'est le message de ce matin. Tu peux mettre, Audrey, quand la bonté de Dieu nous poursuit. La bonté de Dieu, c'est quelque chose dont on parle régulièrement, mais est-ce qu'on saisit vraiment qu'est-ce que c'est que la bonté de Dieu? Je vous propose de lire du coup un texte et je vous propose de prendre du coup vos Bibles. 2 Samuel, donc dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. 2 Samuel 9, et nous allons lire tout le chapitre, donc je vous invite à prendre vos Bibles. Le chapitre est assez court, rassurez-vous. Mais à prendre vos Bibles, et nous allons découvrir du coup cette histoire de Méphibosheth avec le roi David. Donc 2 Samuel, chapitre 9. David demanda: Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « Y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodebar, Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, qui vint vers David. Il tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Mephibosheth !» Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Mephibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain et de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea donc à la table de David, comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. Amen. Mon premier point ici, c'est que Dieu prend l'initiative. C'est la bonté de Dieu, elle se manifeste quand Dieu prend l'initiative. Dans cette histoire, le roi David est au sommet de sa gloire. Il a vaincu tous ses ennemis, il est le nouveau roi d'Israël, et le roi Saül, l'ancien roi, a été déchu. Et selon les coutumes de l'époque, le nouveau roi devait éliminer tous les descendants de l'ancien roi. À votre avis, pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Ça s'est fait aussi en France, hein. Pourquoi cette règle un peu c'était une coutume, c'est vrai, Thomas dit, pour pas qu'ils reprennent le pouvoir. Effectivement, parce que le risque, c'était que l'ancienne famille royale pouvait réclamer le trône. Et pour éviter du coup toute concurrence, le nouveau roi éradiquait du coup tous les potentiels descendants de l'ancienne famille royale. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? David doit éradiquer tous les futurs descendants pour que pas que son trône soit menacé. Pour éviter une révolte quelque part, qui était, et Mephibosheth, qui était de la famille de Saül, devait donc mourir. Mais David va demander autre chose. Il va dire, y a-t-il encore quelqu'un pour que je lui fasse du bien ? Et Dieu est comme ce roi. Dieu est comme ce roi David. Il n'attend pas que nous devenions bons ou religieux pour nous chercher. Dans l'histoire de Mephibosheth, Mephibosheth est dans un lieu, on le voit dans le texte, qui est appelé Lodebar. Il n'est pas à Jérusalem, le texte nous précise qu'il est dans un lieu appelé Lodebar. Et Lodebar, en hébreu, signifie un lieu sans rien. Il est pauvre, Mephibosheth, il est handicapé des deux pieds à la suite d'un accident et il n'a rien à offrir au roi. Même là où il habite, même le lieu s'appelle un lieu où il n'y a rien. En 1865, après la guerre de sécession, donc c'est la guerre civile, encore une guerre civile, je fais que des guerres civiles en illustration ce matin, guerre civile qu'il y a eu aux États-Unis, à la fin de la guerre, le peuple américain s'est déchiré, notamment sur l'esclavage, hein, la fin de l'esclavage, où un des camps était pour et l'autre contre. Bon, il y avait d'autres éléments aussi, mais c'était l'élément essentiel. Les partisans du camp qui venaient ici de perdre vivaient dans une terreur absolue. Ils s'attendaient à des procès, à la prison ou pire. Et un jour, on a demandé au président Abraham Lincoln, et le président qui avait gagné du coup cette guerre, comment il comptait traiter ces rebelles qui avaient combattu contre lui. Et sa réponse elle a stupéfait tout le monde. Il n'a pas parlé de vengeance, il a simplement dit « je les traiterai comme s'ils n'étaient jamais partis ». Un président qui veut la paix, qui ne cherche pas comme le premier exemple, hein, ici la vengeance, mais qui fait preuve de bonté. C'est ça la bonté. C'est quelque chose que l'on ne mérite pas et dont on nous fait grâce. Cette bonté, Dieu le manifeste envers nous, comme le roi David a manifesté cette bonté envers Méphibosheth. C'est exactement son attitude et c'est exactement l'attitude de Dieu envers nous. Sa bonté n'est pas une récompense. Ce que nous méritions, c'est la mort. Mais sa bonté, c'est un cadeau gratuit. Mes frères et sœurs, ici ce matin, je voudrais préciser, ta place dans le royaume de Dieu ne dépend pas de tes performances de cette semaine ou de la semaine dernière. Dieu sait, c'est la parole qui le dit, de quelle poussière tu es faite. Et ce qu'il veut, lui, quelque part, c'est que tu puisses avancer en relation avec lui. Ça ne dépend pas du coup de tes performances de la semaine, mais de l'alliance que Jésus a signée avec son sang à la croix pour toi. Et Jésus, ici, c'est le vrai David, qui quitte son palais pour chercher les perdus dans leur lot de bar spirituel dont nous étions. Nous étions dans des lieux sans rien. Et Jésus est venu nous chercher, comme le roi David est venu chercher Méphibosheth. Méphibosheth, il n'a rien fait pour être invité à la table du roi. C'est le roi David qui prend l'initiative. Et mes frères et sœurs, n'oublions pas, quand on doute de la bonté de Dieu, quand on se dit « Ah, mais cette semaine j'ai fait ça, est-ce que vraiment Dieu y m'aime ?» C'est Dieu qui a fait la démarche envers toi. Se rappeler quelque part de cette bonté. Mon deuxième point, c'est la patience. C'est peut-être le point dont on méprise face à Dieu, la patience face à nos peurs. Méphibosheth, il va tomber sur sa face et il va dire ce verset que je trouve fort quand même, hein, verset 8. « Que suis-je, Méphibosheth qui parle, que suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Je pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette parole de Méphibosheth ? Le roi David l'invite et ce qu'il trouve à dire, c'est ça, il parle de lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Ouais. Ouais, tout à fait, il avait plus rien à offrir, il pensait pas qu'il avait de la valeur, autre chose. C'est comme s'il était mort, mais pourquoi autant de violence envers lui-même? Pourquoi Méphibosheth se traite-t-il de chien mort? Ouais, exactement. Marlène, elle a la réponse à tout, là, ce matin. Effectivement, en fait, à l'époque du roi David, un chien mort, c'était pire que tout. Il n'y avait pas pire situation qu'un chien. Déjà, un chien, c'était compliqué, c'était mal vu, mais un chien mort, c'est une terrible insulte. Et Méphibosheth se définit comme tel au roi David. Et ça montre, c'est ce que disait notre sœur, qu'il a peu d'estime de soi. Cet homme ne s'estime pas. Et on peut le comprendre. Il vient d'une famille qui a perdu le trône, c'est un des seuls survivants. Et en plus, il est handicapé, parce que sa mère, alors il n'y a pas le détail ici, mais dans le texte, l'a fait tomber quand elle était jeune. Il était jeune. Pourquoi, on ne sait pas. Le texte biblique ne le précise pas. Mais il l'a fait tomber, ce qui, du coup, il est devenu estropié. Et cet homme-là, du coup, toute sa vie, il a dû se sentir rabaissé. Alors il a dû se dire, bon, à un moment, j'étais dans la famille royale, mais maintenant qu'il n'a plus rien... Il est même pire qu'un simple citoyen d'Israël. Est-ce que, à votre avis, nous ne faisons pas pareil? Bon, c'est une question que j'attends pas de réponse, parce que la réponse, je pense qu'on l'a tous, c'est oui. Bien souvent, nous nous dévalorisons nous-mêmes. On n'attend pas forcément que les autres le fassent. Nous n'avons pas une bonne estime de nous-mêmes. En tout cas, une estime, la même estime que Dieu a pour nous. Et nous aurions pu dire, alors peut-être pas chien mort, hein, mais d'autres termes. Moi, je suis nul, j'ai toujours été nul. Je vais faire la liste. Hein. Et en se justifiant, avec des raisons. Hein. Méphibosheth, il aurait pu dire, oui, ma mère m'a fait tomber, je suis tombé dans une famille qui a perdu la guerre, qui a perdu la royauté. Et on peut se trouver des raisons. Familial, personnel, qui fait que nous nous dévalorisons. Parce que Méphibosheth, il a passé sa vie à entendre que sa famille était l'ennemi du roi, et il a peur que la bonté ici de David soit un piège. Et Mephibosheth souffre de quelque chose qui peut nous atteindre et qui peut-être t'attend ce matin, d'une identité de victime, se placer en victime. Il se voit comme un chien mort, le plus bas niveau dans la culture de l'époque, mais David va changer son vocabulaire. Il ne l'appelle pas l'infirme, c'est comme ça qu'on l'appelait Mephibosheth, l'infirme. C'est violent hein, quand même. Hein. Il l'appelle par son nom, Mephibosheth. C'est le verset. Hein. Il y a un verset où David, là, c'est le verset, verset 6. David dit Mephibosheth, juste Mephibosheth. Il commence pas par lui parler de « Allez, viens manger à la maison ». Il l'appelle par son nom. Mephibosheth, ce n'est pas un chien mort, c'est une personne qui a de la valeur. Et David lui remet cette valeur. Cette valeur que Mephibosheth lui-même n'a pas. Bien souvent, nous agissons de même parce que quelque part, et je vais prendre cet exemple-là, alors, il vaut ce qu'il vaut, mais nous faisons la même chose. Si vous prenez l'exemple d'un animal qui a été maltraité durant toute sa vie, et si vous lui tendez de la nourriture, il va grogner, se cacher, il va réagir avec violence. Et il faut de la patience pour qu'il comprenne que votre main est là pour nourrir et pas pour le frapper. Parce que lui a été habitué à cela. Et du coup, une main tendue va être prise pour de la violence. Et c'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il fait preuve de patience. David ne s'énerve pas. Il ne lui dit pas « Lève-toi et sois plus fier ». En général, quand on dit ça à quelqu'un qui se victimise, ça avance pas plus. Hein. Il lui dit simplement « Ne crains rien ». Et Dieu est patient avec nos doutes. Il sait que nous avons été blessés par la vie, par les autres, et il prend le temps de nous rassurer. Et la bonté de Dieu ne se contente pas juste de nous pardonner, bien souvent on pense que la bonté de Dieu c'est que ça. Elle nous redonne une dignité, une identité. Donc mes frères et sœurs, ce matin arrêtons de nous rabaisser quand Dieu nous appelle « mon enfant ». C'est le terme que Dieu emploie envers ceux qui lui ont donné sa vie, qui font partie ici de sa famille. Dieu ne voit pas du coup ce côté trauma que tu as. Il ne te considère pas comme une victime, mais comme son enfant, héritier de Dieu. C'est fort, hein ? Nous sommes, mes frères et sœurs, héritiers de Dieu, on l'oublie souvent. Et cela par la bonté uniquement de Dieu, qui nous a offert cette identité, cette dignité. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Jésus est venu dire, ne crains rien, parce qu'il a pris sur lui tout ce qui faisait peur, le jugement, la honte, pour que nous puissions regarder Dieu en face. Si nous regardons Dieu en face, nous saurons regarder les autres avec une dignité que nous avons, sans se laisser victimiser ou se présenter en victime. Ça va ? Et mon dernier point, c'est une nouvelle place pour toujours. Une nouvelle place pour toujours. Le roi David va prendre une décision radicale. Il va rendre à Mephibosheth toutes ses terres. C'est fort, hein ? Mais surtout, il va lui dire, tu mangeras toujours à ma table comme l'un des fils du roi. C'est une bonté, je trouve, incroyable de la part d'un roi qui vient d'arriver. Le roi David prend un risque, mais il fait preuve de bonté. Au début du texte, si vous le lisez bien, David précise « Je veux faire preuve de la bonté de Dieu ». Pas de sa propre bonté, il veut manifester la bonté de Dieu. Parce que David, il a compris une chose, c'est que s'il en est là, c'est que Dieu a été bon envers lui-même. Et que celui qui vit la bonté de Dieu, il la manifeste autour de lui. Celui qui dit croire la bonté de Dieu, ça se voit parce qu'il est bon. Il est bon envers les autres. La bonté de Dieu, elle découle. Nous sommes héritiers du roi, cette bonté, nous sommes appelés à la partager. Mais on ne peut pas la partager si nous avons juste une définition théorique, intellectuelle de la bonté. On dit oui, Dieu est bon, tout le monde est d'accord, ça en général, tout le monde est d'accord, et que nous ne la vivons pas. Et bien souvent, mes frères et sœurs, on peut être chrétien, aimer Dieu, dire, croire que Dieu est bon, et on se présente toujours en victime. Et du coup, nous n'avons pas saisi ici pleinement ce Dieu qui est bon. Et je voudrais te dire, du coup, ce matin, si dans cette situation, que Dieu est patient envers toi. Ce dimanche, mes frères et sœurs, et moi je pense que Dieu veut parler à certains ce dimanche. J'avais pas prévu de parler de la bonté de Dieu. C'était pas ce que j'avais prévu de prêcher. Et cette semaine, voilà, j'étais en réflexion, et mardi soir, à la réunion de prière, il y a eu un texte que Jackie a sorti qui correspondait exactement au verset que j'attendais. Dieu est bon, hein. J'ai dit, Seigneur, allez, je vais t'obéir. On peut te désobéir quand même. Ta bonté, elle est là, mais bon, voilà, quoi. Et je crois, ce matin, moi j'en suis convaincu que quelqu'un, ce matin, a besoin d'être appelé. Que Dieu est bon à ton égard. Dieu fait preuve de patience à ton égard. Arrête juste de croire que Dieu est bon. Ça, tout le monde le croit, mais vis-le. Saisis l'identité que Dieu te donne. En Jésus, cette identité change. Mephibosheth est arrivé comme un fugitif. Dans le palais du roi David, il va repartir comme un prince, avec des terres, pas juste un repas, avec des terres et des serviteurs. 15 à 20 serviteurs, le texte le précise. L'infirme, celui que tout le monde considérait comme infirme, est devenu un prince. Mais ce prince, il était déjà là avant. David remet juste la valeur de Mephibosheth en avant. Rien n'a changé dans ses jambes. Pourtant, Mephibosheth, il reste toujours boiteux. Mais tout a changé dans son statut. Dans son statut, ce n'est pas un repas de charité ponctuelle que David fait. Ce n'est pas un repas des restaurants du cœur, là. C'est un changement de résidence définitif. Et la bonté de Dieu ce matin, mes frères et sœurs, ce n'est pas un CDD. Où la bonté de Dieu commence quand on lui donne sa vie et elle s'arrête au premier péché que nous faisons. Ce n'est pas ça la bonté. La bonté, encore plus, elle déborde quand nous nous pensons indignes de lui. Là où le péché abonde, vous connaissez ce verset ? La grâce de Dieu surabonde. Je me souviens de l'année, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais la vingtaine, je me souviens de l'année où ma sœur, ma petite sœur, a été admise en classe préparatoire à Paris. Voilà, on vivait à Orléans et mes parents n'avaient absolument pas les moyens financiers de financer ses études ou son logement. Et l'école était dans le 15e arrondissement à Paris. Voilà, 15e arrondissement, c'est un arrondissement assez chic. Mais ce qui est bien, c'est que grâce à ses résultats scolaires, ma sœur était assez forte à l'école, elle a obtenu un partenariat avec une grande société financière à Paris, qui prenait tout en charge, l'école, la nourriture, les habits, tout. Il y avait même une bourse de la part de cette association. Et du coup, ma sœur est arrivée à Paris, tout frais payé, un peu comme une princesse. Et lors de la réception de bienvenue, organisée dans un somptueux domaine dans les Yvelines, toute la famille des étudiants qui étaient là, parce qu'elle n'était pas la seule, était invitée à participer. Moi, j'avais 21 ans, j'y suis allé comme une sortie comme une autre. J'aurais su le contexte, j'aurais fait différemment. J'arrive, le domaine, Jérémy, là, tu te rappelles, Jérémy? On était là, du coup, on est arrivé, on était habillé classiquement. Moi, j'étais pas comme ça, hein. J'étais habillé jean, chemise. On arrive, on sent que c'est pas du tout la même ambiance. Le domaine est immense. Et surtout, la population qui est là, c'est une autre population. Alors, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il y avait le conseiller de Nicolas Sarkozy, à l'époque, Henri Guénaud, voilà. Un entre-soi parisien, très chic, c'était un peu la haute de Paris. J'aurais dû m'en douter, mais bon, à 21 ans, on se doute pas. Et du coup, on arrive et on voyait la différence entre ceux qui étaient là, qui avaient l'habitude de ce genre de rendez-vous, et les familles, parce qu'on repérait les familles qui venaient quelque part des milieux un peu plus populaires comme la nôtre. Et autour de nous, il n'y avait que des gens d'une classe sociale très aisée, où on parlait pas d'argent, mais des enjeux de pouvoir et de haute finance. Et j'ai 21 ans, moi, je me dis, mais c'est quoi ces discussions? Moi, ça m'intéresse pas. Je comprends à peine ce dont ils parlent. Et on est à table hein, avec eux. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et moi, je suis pas du tout à l'aise. Et j'aime vraiment pas du coup l'ambiance. En plus, je vois que j'étais en tenue décontractée et je me sentais du coup terriblement mal à l'aise, presque illégitime d'être là. Et j'avais du coup une folle envie, c'était de partir. Et on était tellement déconnectés qu'avec mon frère qui est là ce matin, on n'a pas tenu très longtemps et on est parti dans le hall. Je ne sais pas si tu te rappelles. On est parti dans le hall du château. Tout le monde mangeait, on se dit, ça m'énerve, ils m'énervent tous là. Ils sont déconnectés de la réalité. Allez, on va partir un peu souffler un coup, on va les laisser manger. Et on a laissé mes parents et ma sœur. Bon, ma sœur, elle était obligée, hein, donc, mais du coup, nous, on est partis discuter ailleurs. Et c'est là que la directrice est venue nous voir. La directrice, du coup, de cette association financière, hein, du coup, une grosse association financière. Et moi, je lui ai avoué avec franchise que ce n'est pas mon monde ici. Et avec une simplicité et une bienveillance désarmante, elle nous a mis en confiance. Et elle nous a rappelé une chose, c'est que ce n'était pas à nous d'être à la hauteur. De quoi que ce soit, c'est elle qui nous invitait. Et que sa seule présence, du coup, le fait qu'elle est venue nous dire ça, nous a montré qu'on avait de la valeur. Et elle nous a rappelé une chose, c'est pas venu parce que vous êtes venu, c'est moi qui vous ai invité ici. Et les invités qui sont là, ils le savent. Et s'il y en a un qui doit partir, c'est pas toi, c'est eux. Bon, elle a dit avec beaucoup d'humour. Et je me suis dit, mais c'est beau ça. Et je me suis senti à l'aise. Alors, pas complètement à l'aise, mais beaucoup plus à l'aise. Méphibosheth, je pense qu'il a vécu la même chose. Comme nous, dans ce hall de château, Méphibosheth devait se sentir déplacé. Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, vivent avec cette peur permanente de perdre l'amitié de Dieu. Ou la bonté de Dieu à la moindre erreur. Mais ce verset 13 nous dit quelque chose, qu'il mangeait toujours à la table du roi, bien qu'il soit toujours boiteux. C'est David qui l'a invité, c'est pas Méphibosheth qui s'est imposé. Et la bonté de Dieu, ce matin, vous accueille tel que vous êtes, avec vos blessures. Et cette bonté, elle va même dépasser cela, c'est qu'elle ne va pas vous laisser tel que vous êtes. En étant invité tous les jours à la table du roi, Méphibosheth, il va changer. Il va plus commencer à se dire « je ne suis qu'un chien mort ». Ben non, tous les jours tu manges à la table du roi. Et c'est la bonté de Dieu, cela. En connectant à Dieu tous les jours, Dieu change notre cœur. Au-delà même de connecter avec nous dans la relation, Dieu change notre cœur. C'est l'action du Saint-Esprit. Dieu nous convie à sa table, mais plus que cela, il change ce que nous sommes. On ne repart pas comme un invité par erreur, mais comme un fils ou une fille. Il faut imaginer un peu la situation. Autour du roi David, il y a des généraux, des ministres influents, des gens brillants. Et au milieu d'eux, il y a Méphibosheth. Mais ce qui est beau, c'est que sous la table, on ne voit pas les pieds brisés, on ne voit pas les boiteux. Sur la table, tout le monde est identique. Méphibosheth, il a sa place. On ne regarde pas sous les draps, sous la nappe, qu'est-ce qu'il y a ? Et Dieu, mes frères et sœurs, ne joue pas à faire semblant de ne pas voir nos failles. Il connaît nos failles. Il connaît nos faiblesses. Il ne minimise pas nos erreurs, mais il choisit délibérément de les couvrir par sa grâce. C'est cela la bonté. Il ne nous rejette pas à cause de notre passé, mais il nous invite à cause de son amour. Et la bonté de Dieu ne consiste pas à nous rendre parfaits du jour au lendemain. Bien souvent, c'est ce qu'on veut. Mais je l'ai prêché depuis maintenant plus d'un an, la sanctification, c'est de progrès en progrès. Il peut y avoir des chutes. Dans ce parcours, il peut y avoir des rechutes même. Mais c'est sur le long terme qu'il faut voir. Et des fois, Dieu est beaucoup plus bon avec nous que nous, nous le sommes envers nous-mêmes. À partir de maintenant, Dieu ne nous définit pas par nos échecs, nos limites, ce que j'appelle nos pieds boiteux, comme Méphibosheth. Par la relation qu'il a créée avec nous. Et le texte insiste, hein, il mangeait toujours à la table du roi. Ce verset va être répété deux fois dans le texte. Ça montre l'importance de la décision que va prendre le roi David, qui ne donne pas juste des terres à Mephibosheth en disant bah « Non, tu fais ta vie ». Tous les jours, il mangeait à la table du roi. C'est beau, hein ? Nous, chrétiens, nous avons ce privilège de connecter avec Dieu. Tous les jours. De rentrer dans sa présence, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que Dieu nous voit au travers du Christ, qui nous a adoptés, qui a fait de nous des fils d'adoption. Et si nous connectons avec Dieu quotidiennement, nous pourrons vivre réellement, saisir, toucher la bonté de Dieu. Bien souvent, mes frères et sœurs, surtout dans nos pays, comme en France, on peut râler que tout va mal, mais Dieu fait preuve de bonté tous les jours avec nous. Mais nous ne savons pas compter les bienfaits de Dieu. Il y a ce chant, compte les bienfaits de Dieu. On va compter les bienfaits de Dieu uniquement quand on va chanter ce chant, peut-être, et encore. Mais est-ce que nous arrivons à compter les bienfaits de Dieu ? Si j'en suis là aujourd'hui, quelque part, qu'est-ce que Dieu fait avec moi ? Ou est-ce que je regarde seulement à mes pieds boiteux, à mes infirmités ? Pour conclure, on raconte qu'un petit garçon s'était perdu dans une grande ville. Et un policier lui a demandé « Est-ce que tu connais ton adresse ?» Ce petit garçon lui a répondu « Non, mais si vous me ramenez à la grande église là que l'on voit, avec la croix lumineuse, je saurai retrouver ma route à partir de là. » Peu importe ce matin à quel point vous vous sentez perdu ou boiteux, la croix de Jésus est le point de repère qui vous indique que le roi vous attend. Il veut encore ce matin manifester sa bonté. Ou peut-être même, pas manifester, parce que ça il le fait, mais vous rappeler combien il est bon. Et que sa bonté, mes frères et sœurs, c'est le psaume 23, sa bonté nous poursuit. Elle n'est pas statique. La bonté de Dieu nous poursuit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans nos lieux déserts, nous sommes ici, des fois comme Mephibosheth, à l'eau de bar, dans des lieux où il n'y a rien, c'est le désert et on se voit comme des chiens morts. Et Dieu te cherche. Il nous cherche aujourd'hui pour exprimer son amour et sa bonté. Et bien souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, ça, mes frères et sœurs, moi je l'ai déjà expérimenté. Des fois, on s'éloigne de Dieu et on ne fait pas l'effort de revenir à Dieu. Et Dieu nous envoie des signes. Il nous parle. Il nous montre combien il est bon. Ça m'est arrivé plein de fois, ça. Où Dieu, je ne veux plus en entendre parler, et Dieu se rappelle à moi. Moi, je ne fais rien de particulier, mais Dieu se rappelle à moi. Dieu se rappelle à nous. Sa bonté se manifeste. Bien souvent, nous ne le voyons pas parce que nous ne sommes pas sensibles à l'écoute quelque part de Dieu, mais Dieu, lui, est patient. Il continue à parler. Est-ce que nous acceptons ce matin de quitter notre cachette, d'être caché sous la table du roi, et d'être assis sur la chaise, de regarder Dieu en face, et nous le pouvons, parce que Christ a tout fait pour nous. Amen. Je propose de courber nos têtes, nous allons prier. Peut-être, ce matin, voilà, je t'invite à faire cette prière avec moi, à répéter après moi. Faire cette prière avec moi, nous allons prendre un chant après, qui parle de la bonté de Dieu. Je vous invite, mes frères et sœurs, tout simplement ce matin, voilà, à exprimer vos cœurs, à exprimer votre reconnaissance sur la bonté de Dieu. Ce matin, nous allons louer Dieu ce matin. Exprimez combien Dieu est bon. Nous allons prendre ensuite la Sainte Seine, et je vais laisser Thomas guider ces temps-là. Et que nous puissions, en tout cas, mes frères et sœurs, dans ce moment, nous poser et nous rappeler combien Dieu est bon. Ne pas laisser le diable nous rappeler toutes les erreurs, toutes nos situations actuelles, mais nous rappeler, nous sommes des fils du roi, des enfants de Dieu, que Dieu a acceptés. Prions. Merci Seigneur, parce que tu ne nous traites pas comme nous le méritons, mais selon ta patience et ta bonté. Merci parce que ta bonté nous poursuit. Elle nous poursuit même quand nous fuyons loin de toi. Et merci de nous chercher, dans nos cachettes. Quand nous fuyons loin de toi, pensant que tu ne nous vois pas, que tu ne viendras pas nous chercher. Merci Seigneur parce que nous sommes assis à ta table. Cette table que tu nous as ouverte, non par nos mérites, mais uniquement par l'alliance que tu as faite en Jésus-Christ, dont nous sommes héritiers. Amen.